Une apérophonie pour la 90.8.
Tout de suite, chef.
C'est noté, chef.
On envoie.
Voici votre gratinée de culture.
Avec son émulsion de découvertes,
infusée de musique locale
et émergente,
saupoudrée de vie associative.
Mais what ?
C'est l'apérophonie sur Radio Campus Grenoble.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans l'apérophonie sur Radio Campus Grenoble 90.8. Malgré la météo toujours aussi mitigée, en ce mois de juin, nous sommes à l'approche de l'été et qui dit été dit vacances et donc accroissement des abandons des animaux domestiques. Nous sommes avec Satine et Thierry du refuge Apagie qui se trouve au Versoux pour en parler. Bonjour à vous.
Bonjour.
Bonjour.
Comment allez-vous ?
Bien, bien.
Ça va très bien.
Pour commencer, on peut parler un peu de l'histoire du refuge ?
Oui, bien sûr. Eh bien, l'Apagie, c'est une association pour la protection des animaux de Grenoble et de l'Isère, d'où le nom Apagie. Et c'est une association loi 1901 qui a démarré au mois d'octobre 1977. Donc ça fait maintenant un paquet d'années. Et au départ, l'association avait deux fonctions, fourrière animale et refuge. Aujourd'hui, la fourrière est indépendante et l'objectif du refuge, de l'Apagie, c'est de recueillir, d'héberger et de placer les chiens et les chats que nous recueillons.
Pour commencer, je voulais savoir quand même s'il y a vraiment plus d'abandon à l'approche de l'été ou si c'est une légende urbaine ou... Et comment ça se fait ?
Ben, le problème, c'est que, effectivement, il y a des gens un peu scrupuleux qui, arrivés l'été, ont du mal à faire garder leurs animaux parce que là où ils vont, ils ne peuvent pas les garder. Donc, il peut y avoir un accroissement. Je ne connais pas les chiffres exacts, mais c'est sûr que nous, on a plus de 600 animaux, chiens et chats confondus par an que nous recueillons, et nous ne sommes pas le seul refuge pour animaux sur la région grenobloise. Donc voilà, il y a beaucoup d'animaux abandonnés.
Comment ça fonctionne Comment votre refuge fonctionne pour recueillir des animaux ?
Alors, on a, on va dire, trois sources, si on peut s'exprimer ainsi. La première, c'est les animaux qui viennent de la fourrière. Donc la fourrière récupère des animaux sur la voie publique, à la demande de pompiers, de mairies, gendarmerie, police. Il y a aussi des abandons, ce qu'on appelle au portail, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent nous déposer les animaux. Des fois, ils les attachent à un portail et puis on arrive le lendemain matin, on trouve l'animal là. Et il y a aussi des gens qui appellent pour dire on ne peut plus garder notre chien, notre chat, pour X raisons. Il faut nous aider, il faut nous le prendre.
Quand il y a des animaux qui se retrouvent attachés à votre portail, est-ce que vous arrivez à trouver les maîtres ou pas du tout ?
C'est pas toujours évident. En principe, les chiens et les chats sont pucés. Donc déjà, un chien qui est au portail, en général, il passe quand même par la fourrière, parce qu'aujourd'hui, l'Apagie se trouve physiquement à côté de la fourrière. En fait, on dépend de la métropole, et parce que les locaux appartiennent à la métropole, et du coup, la fourrière, qui est sous la responsabilité d'une équipe, dont j'ai oublié le nom tout de suite, mais je vous redirai ça, on est vraiment côte à côte. Donc, on met d'abord les animaux en fourrière avant de les répercuter chez nous.
Ok. Et je voulais savoir un peu, on est d'accord que c'est illégal d'abandonner des animaux sur la voie publique. Ça l'est aussi quand c'est au portail. C'est considéré comme la voie publique ?
J'ai pas la réponse à la question, non. Parce que techniquement, je sais pas. Pour moi, oui, je dirais que c'est la même chose. Parce que là, de toute façon, l'animal est abandonné. Qu'il soit abandonné sur au portail ou qu'il soit divagant, à la limite, au niveau du portail, on sait qu'il y a quelqu'un qui va s'en occuper. Quand on attache le chien ou le chat dans un bois, c'est pire.
Est-ce que vous pouvez recueillir tous les animaux qui viennent à vous ?
Non. Et... Non, on est limité en place. Donc, on aurait un problème de on va avoir une limitation de structure et d'agents animaliers qui peuvent s'en occuper. Aujourd'hui, à la Pagie, nous avons 4 salariés, enfin 2 agents animaliers qu'on appelle des soigneurs ou soigneuses pour les chiens et 2 pour les chats.
Et quand c'est pas possible de recueillir les animaux, ils deviennent quoi ?
Ben, ils peuvent rester un certain temps en fourrière.
Mais j'imagine que la fourrière, elle n'a pas non plus de la place oui. Illimitée.
Alors, ce qui se passe, c'est que ça fait aussi une zone tampon. Nous, on fait tout notre possible pour permettre à des animaux d'être adoptés et ou d'être mis en famille d'accueil. On reviendra peut-être un peu plus tard sur le sujet. Et donc, du coup, on recrée des places et donc on peut de nouveau en accueillir. Donc voilà, on essaye de faire tourner comme ça au mieux.
Et donc, pourquoi il y a tant d'abandon ? Vous avez une raison
J'en ai quelques-unes, mais elles seront pas, c'est pas exhaustif. Il arrive fréquemment que des gens ne se rendent pas compte. Je parle plus des chiens que des chats parce que je suis plus spécialisé dans le chien, donc je connais un peu mieux le sujet. Les gens ne se rendent pas compte de ce que représente d'avoir un animal, un chien, qu'il faut le sortir tous les jours, lui faire faire ses besoins, le toiletter, le nourrir. Et puis des fois on prend un chiot, c'est tout mignon, c'est tout petit, et puis on arrive au bout d'un an et demi, 2 ans, on a un chien qui fait 5 fois la taille qu'il avait au début, et on se dit « Ah non, mais c'est trop gros pour moi ». Ou alors des gens qui n'ont pas fait d'éducation, qui ont laissé faire un peu n'importe quoi. Le chien prend des mauvaises habitudes et du coup, on n'arrive plus à le gérer. Donc, on veut s'en séparer parce que c'est trop compliqué.
C'est des questions qu'il faut se poser du coup avant d'adopter.
Oui. Oui.
Vous avez un peu des questions type à se poser quand on réfléchit à adopter
Déjà, nous... Quand on a des adoptants qui viennent pour un chien en refuge, on va discuter avec eux. On va voir quel est leur mode de fonctionnement, comment ils vivent tous les jours. Parce que le principe, c'est que l'arrivée d'un chien ne doit pas modifier la façon de fonctionner des gens. Parce que sinon, il y a de fortes chances qu'on aille à l'échec. Donc il faut que ça soit, et suivant le chien, si c'est des gens, je vais caricaturer, mais si on prend un couple de personnes âgées qui sont très tranquilles, qui peuvent faire des petites balades, mais sans plus, et qu'on a un chien qui est super calme, qui est tranquille, qui est un peu âgé, bah peut-être que ça leur conviendra bien. Par contre, on n'ira pas leur proposer un chien qui a 1 an et demi, qui veut courir dans tous les sens, et que les gens n'arriveront pas à gérer parce que c'est pas toujours facile.
Donc votre rôle aussi, c'est de conseiller les gens
tout à fait.
Sur quel type d'animal adopter.
Oui.
Donc comment fonctionne un peu le refuge ? Il y a des salariés, j'imagine, et
oui.
Des bénévoles.
Et beaucoup de bénévoles, oui.
Quelles sont la répartition des rôles ?
Au niveau des soigneurs, du coup, ils s'occupent de toute la partie soins aux animaux, nettoyage aussi. Ils peuvent aussi accueillir du coup les potentiels adoptants. Ils peuvent conseiller parce que finalement, c'est ceux qui connaissent le plus les chiens et les chats. Ils les côtoient toute la semaine du matin au soir. Donc ils sont très à même de conseiller les adoptants. Après, au niveau des bénévoles, il y a plusieurs rôles possibles. Il y a des bénévoles qui viennent pour promener les chiens, pour les sortir. Il y a des bénévoles qui sont plus côté événements, communication, pour aider. Par exemple, pour les collectes, on fait beaucoup de collectes. Par exemple, nos portes ouvertes qui arrivent ce week-end. Voilà, on a besoin d'aide à ce niveau-là. Et donc, il y a des bénévoles qui arrivent à dégager du temps pour nous, ce qui est juste génial. Voilà, je ne sais pas si...
Oui, alors, ce qu'on peut préciser dans les collectes, pour que ça soit clair dans l'esprit des gens, c'est qu'il y a 2 types de collectes. Il peut y avoir une collecte où on essaye de récupérer des fonds par des dons et tout ça. Mais ce dont parlait Satine, c'est des collectes via des magasins comme Maxizou, Botanique et tout ça, et qui vont nous dire, nous, on a un stock qu'on va vous donner, mais il faut venir en chercher demain. Donc, il faut qu'on soit disponible. Et puis, ils nous permettent de tenir un stand dans leur magasin, le temps de... Justement, pour sensibiliser les gens, pour leur parler de nos portes ouvertes, de parler des différentes actions que l'on a. On fait aussi du parrainage, on fait un certain nombre de choses. Et donc, sensibiliser les gens et aller vers les gens. Parce que le mieux, c'est d'aller vers eux pour obtenir leur contribution.
Et vous parliez des familles d'accueil tout à l'heure.
Oui.
Ils font partie des bénévoles ou pas du tout?
Ça peut, mais c'est pas obligatoire.
Forcément. Comment on fait pour être famille d'accueil?
Il faut, quand on est intéressé, il faut venir à la PAJI. Il y a un certain nombre, il y a un questionnaire à remplir. On fait le point, parce que des fois, c'est des familles d'accueil pour chat ou pour chien déjà. C'est pas du tout pareil. Et c'est permettre, par exemple, quand un chien a besoin de soins particuliers, de prendre le chien ou le chat pendant quelques semaines, peut-être 2-3 mois, le temps que le traitement soit appliqué au mieux, parce que comme disait Satine tout à l'heure, les soigneurs leur donnent leur traitement, les nourrissent, nettoient les box et tout ça, mais elles ont un travail monstrueux à faire, donc c'est pas évident. Et ça, les familles d'accueil sont là pour faire tampon avec une famille d'adoptants qui viendra par la suite.
Faut être formé du coup pour être famille d'accueil ou pas du tout? Pas forcément.
Pas forcément. Enfin, c'est en général les familles d'accueil, c'est des gens qui ont déjà des animaux, qui connaissent et donc qui savent s'y prendre. Mais dans l'absolu, il n'y a pas besoin d'être formé de façon vraiment précise.
Je voulais savoir un peu l'impact que ça a sur les animaux d'être abandonnés. Si vous pouvez répondre à ça, si vous pouvez, les traumatismes, quels troubles du comportement, par exemple.
Oui, ça amène automatiquement des troubles du comportement, parce que le fait d'être abandonné, c'est déjà quelque chose de très traumatisant pour l'animal, quel qu'il soit. Il y a deux choses, c'est que le chien est abandonné, donc on le laisse, et le deuxième effet, c'est qu'il est enfermé dans un box. Alors pour un chien, ça a quelques mètres carrés, pour les chats, c'est un peu plus petit. Et puis, personne ne s'occupe de... Si, tous les bénévoles qui viennent tous les jours les sortir, passer un moment avec eux, les soigneuses ou soigneurs qui sont là, mais c'est pas comme... comme quand un chien ou un chat est dans une famille où ils ont une attention et un amour vraiment important et continu.
À quel point c'est grave, en fait, pour l'animal?
On ne peut pas être dans leur tête, donc c'est toujours compliqué de répondre à cette question. Mais il y a des chiens qui sont prostrés, il y en a qui sont tout le temps sur la défensive... et donc c'est essayer de, on essaye nous de faire le maximum pour leur montrer qu'on va bien s'occuper d'eux, qu'il n'y a pas de fatalité, si on peut dire ça comme ça.
C'est possible de rattraper après sur les animaux, ouais.
Oui, c'est possible. Alors encore une fois, j'ai plus parlé des chiens que des chats, mais déjà c'est avoir une grande attention à l'animal. Quand il y a des nouveaux adoptants qui vont s'occuper vraiment de cet animal et en particulier de cet animal, l'animal va se sentir de mieux en mieux. Ça va prendre du temps. Il ne faut pas croire que le chien ou le chat qui arrive dans une famille, 3 semaines après, tout va bien. Ce n'est pas possible. Ça peut prendre des mois, surtout si l'animal a été maltraité. Pour qu'il regagne la confiance de ces nouveaux adoptants, ça peut prendre du temps. Mais ça se fait, oui, bien sûr.
Ça marche aussi pour les chiens à la mode, type Staff, Malinois et compagnie, où on sait que, une fois qu'ils sont grands, c'est plus, enfin, c'est, ça peut être des chiens dangereux s'ils sont mal éduqués.
Oui, donc c'est pour ça que nous, notre objectif, c'est de, aussi d'essayer sur ce type de chien. Si on tombe sur des chiens qui sont pas bien dans leurs pattes, qui ont été soit maltraités, soit un peu laissés dans un coin, on va essayer de les rééduquer, de leur permettre de retrouver un cadre tout en douceur, tranquillement. Ça va prendre du temps. Il y a des chiens qu'on a depuis maintenant quelques temps et ils progressent tout doucement. Et puis, il y a un moment donné où on pourra dire, ben voilà, il est de nouveau adoptable par une famille. Et ça, c'est la plus grande victoire pour nous. C'est d'arriver à dire, bon ben, ce chien-là, c'était compliqué, mais on a réussi.
Je vous propose une petite pause musicale sur cette bonne nouvelle.
Ok.
Vous êtes toujours sur le 90.8 avec Apagie, le refuge pour animaux au Versou. Je voulais savoir un peu le modèle économique et comment vit l'asso.
Ben, l'association vit d'une part par une subvention de la métropole, que l'on remercie au passage, et puis avec les dons, avec toutes les collectes, on récupère aussi pas mal de nourriture pour les chiens et les chats, pour les nourrir quotidiennement, parce que ben, évidemment... Ça revient vite, vite cher. Et puis, il y a les soins vétérinaires aussi qu'il faut faire. Donc, il y a des parrainages. Donc, il y a des dons, des parrainages. Donc, les parrainages, c'est des gens qui souhaitent s'investir plus sur un animal en particulier et donc qui donnent régulièrement de l'argent pour que cet animal, un chien ou un chat, puisse suivre un traitement particulier, refaire de l'éducation canine, par exemple, pour un chien, pour qu'il soit plus facilement adoptable, ainsi de suite.
Pour vous, comment la société considère les animaux, Satine?
Alors, selon moi... Je pense que de plus en plus, les gens considèrent les animaux plus comme des objets, mais comme des membres à part entière de leur famille. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de monde qui se rendent compte qu'avoir un animal, c'est pas juste avoir une peluche, c'est beaucoup plus de responsabilité que ça. Après, il y a quand même beaucoup, beaucoup de travail à faire. Il y a encore des personnes qui, malheureusement, maltraitent leurs animaux, que ce soit volontaire ou juste de la négligence par méconnaissance, par manque d'éducation parfois. C'est pour ça que je pense qu'il est super important de faire de la pédagogie, de l'éducation avec les gens. Comme on disait tout à l'heure, lors des adoptions, de bien évoquer tous les besoins qu'a un chien ou un chat. Et voilà, mais je pense que quand même, ça va un petit peu vers le mieux.
Ah, c'est intéressant de savoir que ça va un petit peu vers le mieux, alors que d'après les chiffres, il y a quand même une hausse des abandons. En 2022, c'était 45 000 animaux réfugiés,
abandonnés,
recueillis par les refuges.
Ouais, c'est ça.
Voilà. Mais pourtant, moi, j'ai quand même toujours l'impression que la cause animalière est toujours prise à la légère. Qu'est-ce que vous en pensez?
C'est de moins en moins vrai. J'en veux deux exemples. Le premier, c'est qu'il y a une loi qui, je crois, date de 2018, qui, d'abord, faut savoir qu'avant, un animal domestique, on parle principalement des chiens et des chats, mais il n'y a pas que ça, était considéré dans la loi française comme des objets, au même titre que des objets. Ce n'est plus le cas avec une loi qui a été, avec un décret d'application qui date de 2018, si j'ai bonne mémoire, et qui fait que maintenant, on considère ça comme un être vivant. Ça, c'est quand même le minimum.
Attention.
C'est une jolie marque de progrès.
Et il faut savoir que en cas de négligence ou de maltraitance, on peut avoir jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui a, déjà au niveau législatif, qui a changé, qui fait que ça fait quand même prendre conscience qu'on ne peut plus faire comme on voulait à une époque. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que maintenant, quand vous allez dans une animalerie pour prendre un chien ou un chat ou un hamster, vous avez une semaine... 15 jours, je crois, même, pour ramener l'animal, si vous vous rendez compte que ça ne va pas du tout, que, en fait, vous n'aviez pas pris du tout conscience. Et là, c'est pareil, c'est une loi qui a été mise en place, justement, pour faire prendre conscience aux gens que, si on le prend, c'est pas pour le ramener dans 3 mois. Alors, on part du principe que 15 jours...
C'est juste, hein.
C'est juste, mais ça permet de commencer à se rendre compte, de toucher du doigt ce que ça veut dire, et que si vraiment il y a quelque chose qui se passe pas bien, on peut faire machine arrière et éviter de se retrouver avec des abandons quelques mois ou des années après.
Ah, c'est intéressant, il y a quand même de la progression.
Donc il y a une progression.
Et c'est intéressant que vous parliez des animaleries. Moi, je voulais savoir un peu. J'ai l'impression qu'il y a comme une industrie des animaux, et c'est peut-être aussi ça qui fait qu'il y a beaucoup d'abandon, c'est qu'il y a peut-être trop d'animaux.
Bah, je pense aussi que certaines personnes ne se rendent pas forcément compte de l'implication que c'est d'avoir un animal, notamment dans les animaleries où on peut retrouver tout ce qui est lapin, cochon d'Inde, tous les trucs horribles, comment je le dis, mais tous les animaux en fait qui font plaisir aux enfants, qui donnent envie, un lapin c'est trop mignon, enfin... Sauf qu'en fait, c'est un être vivant qui a des besoins et c'est pas simplement un petit animal qu'on peut mettre en cage toute sa vie sans s'en occuper, quoi. Donc c'est vrai que je pense qu'il y a aussi une marge d'amélioration à ce niveau-là. Mais encore une fois, c'est important d'éduquer les gens là-dessus, de faire de la pédagogie, voilà.
Et par rapport au fait qu'il y a beaucoup d'animaux dans notre société, parce qu'on dit aussi qu'il faut stériliser les animaux, c'est qu'il faut limiter la croissance.
La propagation, ouais, bien la sûr. Propagation. Oui, c'est super important. En fait, il faut laisser, à mon sens, il faut laisser aux éleveurs de chiens, de chats, ce rôle-là, parce que ce sont des professionnels. C'est pas rien de mettre en place. Je vais vous donner juste un exemple pour que vous compreniez. Moi, je connais assez bien le berger australien, qui est un chien qui est le plus en vogue aujourd'hui au niveau français. Vous ne pouvez pas faire reproduire deux bergers australiens, donc un mâle et une femelle, comme ça. Parce qu'ils peuvent être porteurs de gènes qui peuvent poser des problèmes. Donc tout élevage sérieux sur le berger australien, ils vont faire un test ADN des deux pour s'assurer qu'ils sont compatibles avant de faire. Et ça, un professionnel va le savoir, il va le faire. Un amateur qui va se dire, oh, tiens, moi j'ai mon chien, il est sympa, tiens, toi t'as ta chienne qui est sympa aussi, tiens, si on se faisait une portée.
Et ça engendre des risques si on le fait
pas ? Des risques de santé, bien sûr. Et ça peut aller jusqu'à avoir des chiots morts, des chiots qui sont sourds ou aveugles. Ça peut créer des dégénérescences conséquentes. Alors évidemment, ça n'arrive pas tout le temps, mais ça peut arriver. Et il faut être conscient de tout ça. Et c'est pour ça que nous, tous les chiens et chats qui sont à l'apagie, quand ils ressortent, ils ont une obligation d'être stérilisés. Parce qu'on veut limiter le nombre d'abandons au maximum.
Et donc c'est ça aussi qui aide à faire face à la saturation des refuges. Comment on peut faire pour limiter et faire face à ça?
C'est vraiment que tous les professionnels prennent peut-être un peu plus de temps pour essayer de sonder une famille qui veut vraiment prendre un chien, parce que eux ils connaissent la race, ils savent comment va fonctionner en général un malinois, un berger australien, un dog de Bordeaux ou un staff. En plus, les American staff, typiquement, sont des chiens qui sont catégorisés, donc qui sont en plus, qui ont des contraintes assez fortes. Donc, il faut que les gens soient conscients de tout ça avant d'acheter un chien, parce qu'on parle là d'acheter quand c'est des professionnels. Il faudrait déjà qu'il y ait cette évolution-là. À mon sens.
Et à votre niveau, vous avez des actions de sensibilisation pour réfléchir avant d'adopter
Justement, par rapport à ça, on mène une campagne en ce moment de sensibilisation contre l'abandon, notamment sur nos réseaux sociaux. On essaye de faire comprendre aux gens à quel point c'est quelque chose d'important. On essaye de sensibiliser un maximum de personnes. On va aussi faire beaucoup d'affichages avec en fait, les raisons pour lesquelles parfois les gens abandonnent leurs animaux. Et ce sont des raisons qui peuvent être facilement corrigeables. C'est-à-dire que, par exemple, une personne va rencontrer des difficultés avec son chien ou son chat au niveau de son comportement. Ce qu'on veut faire passer comme message, c'est qu'il y a des solutions, c'est qu'il y a des éducateurs canins, c'est qu'on peut chercher de l'aide on peut chercher de l'aide auprès de professionnels et que l'abandon ne doit pas être une solution à ça, en fait. Par exemple, on a déjà eu des problèmes, par exemple, de chiots qui font leurs besoins un peu n'importe où. Ce sont des problèmes sur le moment, mais c'est des choses qu'on peut régler assez facilement avec l'aide de professionnels. Et il ne faut pas que les gens s'arrêtent aux premières difficultés, il faut qu'ils puissent en parler autour d'eux. Voilà quoi, il faut sensibiliser un maximum de personnes, en fait, pour qu'ils voient qu'ils sont pas tout seuls dans certaines situations et qu'on est là aussi pour ça. Le refuge, je sais que si après une adoption, certains adoptants ont des difficultés avec leur chien ou leur chat, je sais que les soigneurs et les soigneuses sont toujours là en cas de besoin pour donner des conseils et pour aider dans la vie d'après.
Donc les réseaux sociaux et votre porte ouverte.
Oui.
Oui, aussi notre porte ouverte du 15 et 16 juin de 10h à 17h30 sur les deux journées. Ce que je voulais compléter le propos de Satine, c'est que en vacances, quand on veut partir en vacances et on ne peut pas emmener son chien ou son chat, c'est tout à fait compréhensible. Mais il y a plein de solutions pour faire garder son animal. Alors oui, ça coûte un petit peu d'argent, mais son animal, on le retrouve 15 jours après ou une semaine après. Et il aura été bien traité, il se sera amusé avec ce qu'on appelle, on utilise des termes anglais, des pet sitters, des dog sitters. Voilà, c'est il y a plein de solutions. Il faut juste avoir envie de chercher et on peut en trouver.
C'était bien comme précision, c'est important en vrai. Et sur votre porte ouverte, qu'est-ce qu'on pourra faire sur ces journées si on vient vous voir?
Eh ben, sur notre porte ouverte, on va avoir plusieurs stands de diverses associations qui nous rejoignent pour les portes ouvertes, d'artisans également. Il y aura un petit coin restauration avec des options végétariennes. Aussi, une petite animation pour les enfants, notamment avec une pêche à la ligne, c'est bien ça.
Tout à fait.
On fait également un stand d'enveloppes gagnantes, où on va pouvoir vendre des enveloppes gagnantes, tout simplement. Ça fonctionne un peu comme une tombola, sauf que c'est 100% gagnant. Les gens repartent forcément avec quelque chose à la maison, et ça nous permet aussi, du coup, de nous aider à financer le refuge pour les chiens et les chats. Je ne sais pas si j'oublie quelque chose.
Ce qu'on peut dire aussi, c'est déjà très complet, mais ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'on permet aux gens de voir le refuge,
oui, tout simplement,
de voir comment on fonctionne, de voir les animaux qui sont là, et peut-être qu'il y aura un coup de cœur et qu'on pourra rassembler un chien ou un chien ou un chat avec de futurs adoptants, et ça c'est super.
Ouais, donc on peut visiter la chatterie,
oui,
la nurserie,
voilà.
Oui, tout à fait.
Et je donne tout de suite une petite précision. Entre midi et 14h, on laissera les animaux tranquilles parce qu'ils ont aussi besoin d'un moment de calme. C'est leur moment du repas, de détente. Mais le reste du temps, ça sera avec plaisir que l'on vous présentera les animaux que nous avons.
Donc le 15 et 16 juin, à partir,
oui,
de quelle heure?
À partir de 10h jusqu'à 17h30.
Ok, à la Pagie, au Verso.
Exactement.
Et merci beaucoup pour cette émission.
Merci à vous de nous avoir reçus.
Merci beaucoup.
Je remercie Mathilde à la technique. Je remercie Myriam, notre journaliste en herbe, qui est avec nous. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. À une prochaine.
Merci, à bientôt.
Merci.
Au revoir.
Et c'était quoi? L'apérophonie. Ouais, mais c'était quoi? L'apérophonie. C'est quoi? L'apérophonie.
Quoi?
Sur Campus Grenoble.
Sur quoi?
Sur le 90.8.
Sur Campus Grenoble 90.8.
Oui.